incontri con la Fondazione Michonneau.
Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la Fondazione Michonneau, che in questo periodo ci fa conoscere le varie associazioni che si occupano di cultura in Valle d'Aosta. Oggi a condurre la puntata sarà Alessandro Celi, che intervista il presidente dell'Académie Saint-Anselme, Joseph César Perrin. Buongiorno Alessandro.
Bonjour à tous. On est aujourd'hui en compagnie de Joseph César Perrin, président de l'Académie Saint-Anselme, la plus ancienne des sociétés savantes, des institutions culturelles de la Vallée d'Aoste. Je te souhaite la bienvenue et je te demande tout de suite de dire qu'est-ce que c'est que l'Académie.
Merci et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Évidemment, ce n'est peut-être pas à moi à faire les éloges de l'Académie. Elle, d'ailleurs, n'en a pas besoin. C'est une association culturelle historique qui a beaucoup œuvré pour la Vallée d'Aoste, pour la culture valdôtaine, et qui continue, malgré toutes les difficultés, à œuvrer dans ce sens. La naissance de l'Académie se situe dans une période de ferveur culturelle. Je dirais que toute la première moitié du 19e siècle, il y a eu un mouvement intellectuel et culturel formidable qui a fini par aboutir aussi à la naissance de notre société. Ce mouvement culturel a été poussé, à mon avis, par les idées de l'illuminisme français qui ont pénétré en Vallée d'Aoste, colporté soit pour les émigrés valdôtains qui rentraient au pays, soit pour les immigrés savoyards qui fuyaient la Révolution française et après l'invasion de la Savoie et qui séjournaient à Aoste ou dans la Vallée d'Aoste. Il suffit de penser par exemple aux deux maîtres, Xavier et Joseph, qui pendant quelque temps ont séjourné dans la capitale du duché d'Aoste. Et ensuite aussi à l'appartenance de notre région, d'abord à la République française et puis à l'Empire français. Ce qui a fait que les idées d'Outremont ont influencé beaucoup notre culture, nos hommes, nos intellectuels. Et je crois que le moment clou, le moment déterminant, a été l'année 1841 avec la naissance du premier journal valdôtain, la feuille d'annonce d'Aoste, qui a été un lieu de grand débat intellectuel parmi l'élite valdôtaine, qui a poussé nos hommes à réfléchir, à écrire, à débattre des idées nouvelles. Il suffit de penser au chanoine Félix Orsières et son modernisme à l'égard de toute une série de sujets. C'est dans ce cadre, je dirais, que naît l'Académie Saint-Anselme.
C'est très intéressant parce que quand même la Vallée d'Aoste est un petit endroit par rapport même au royaume de Sardaigne, mais on va en parler encore après la pause musicale. À tout à l'heure. Nous voilà de nouveau au micro. On était en train de présenter le milieu culturel qui donna naissance à l'Académie Saint-Anselme. Donc la moitié des la moitié du 19e siècle avec la naissance des journaux en Vallée d'Aoste. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore, Joseph?
Oui, c'est dans ce que je disais que naît notre société. Je crois que le mérite revient d'abord à un chanoine, Victor Joseph Lucas, qui était professeur au grand séminaire d'Aoste et qui, en 1853, avait réuni autour de lui un petit cénacle de séminaristes dans lequel il faisait des causeries, il débattait les problèmes, surtout évidemment religieux, de l'époque, et qui l'année suivante, donc 1854, avait transformé ce petit groupe de séminaristes dans une petite société culturelle littéraire. En ces mêmes années, comme professeur au Grand Séminaire, il y avait aussi le chanoine Jean-Antoine Gall, qui connaissait l'activité de son confrère Lucas, qui en était admiratif, et qu'il pensa donc de élargir ce cénacle, de le faire sortir du Grand Séminaire et de l'étendre sur toute la vallée. Et il songea donc à créer une société savante, une académie. D'ailleurs, nous n'oublions pas que la première moitié du XIXe siècle a vu la naissance en Italie, en Suisse, en France, d'une longue série d'académies, de sociétés savantes, plusieurs desquelles, pour ne pas dire la totalité desquelles, est encore vivante aujourd'hui. Le chanoine Gall eut donc l'idée de lancer cette académie. Il en parla à l'évêque qui lui accorda la permission d'agir.
L'évêque, c'était Monseigneur Jourdain à l'époque.
C'était Monseigneur Jourdain à ce moment-là. Et voilà qu'il rédige une ébauche de statut à présenter à une première réunion de possibles confrères. Cette réunion a eu lieu le 29 mars 1855, donc il y a bientôt 160 ans, et a vu la présence de 25 membres, si je ne me trompe pas, la plupart desquels étaient des membres du clergé.
On reprend, je m'excuse, mais il y a à nouveau une pause. À tout à l'heure encore. Encore une fois, bonjour. On reprend notre discours avec le président Perrin, président de l'Académie Saint-Anselme. Quels étaient donc les premiers composants, les premiers membres de l'Académie? On a dit le clergé, et après
La majorité était composée par des membres du clergé, plus cinq laïcs. Cette différence n'est pas étonnante, parce que la culture avait été jusqu'alors, sauf de louables exceptions, pensons par exemple au grand historien de la Vallée d'Aoste, Jean-Baptiste de Tillier, mais il n'était pas le seul, mais je disais la culture était généralement domaine du clergé, parce que c'était les personnes les plus instruites, parce que c'est ceux qui avaient le temps d'approfondir les thèmes, et qui avait déjà, vers la fin du XVIIIe siècle, repris toute une longue série d'études de géographie, de théologie, etc. Et donc c'était ceux qui avaient les armes pour affronter aussi d'autres problèmes. Et donc la raison pour laquelle la majorité des membres fondateurs de l'Académie étaient justement des prêtres.
Des prêtres. Situation qui n'est plus celle d'aujourd'hui, je crois.
Oui, je dirais qu'aujourd'hui, la situation s'est complètement renversée. Même si l'Académie est restée une académie scientifique et religieuse, ainsi que avait été prévu au moment de sa fondation, les membres du clergé, hélas, sont désormais réduits et on peut presque les compter sur les doigts d'une main. Et malheureusement, il n'y a pas à l'intérieur du clergé la possibilité d'une relève. J'avais même parlé de cela avec Monseigneur l'évêque, mais lui non plus n'a pas su entrevoir quelqu'un qui puisse devenir membre de l'Académie. C'est un renversement total parce que en Vallée d'Aoste, le clergé a énormément contribué à la culture valdôtaine. Et je dirais qu'à un moment donné, était presque le seul qui œuvrait dans le domaine intellectuel chez nous. Ce n'est que à partir du XXe siècle, je dirais même dans la deuxième moitié du XXe siècle, que les laïcs prennent la relève et devance le clergé dans ce sens.
Donc c'est plutôt la société valdôtaine qui a changé et le clergé avec elle, et c'est là le résultat.
Évidemment. Même si, disons, aujourd'hui, l'Académie Saint-Anselme œuvre encore dans la direction qui avait été tracée par les statuts. Parce que s'il est vrai que les premiers trois articles du statut, en définissant les buts, avaient, nous avons dit, majorité de membres du clergé, en vue surtout l'aspect religieux, et donc les études de théologie, de géographie, d'histoire ecclésiastique, etc., il s'était cependant donné aussi d'autres buts, et d'élargir son champ de recherche dans tous les domaines, soit historique, soit scientifique, soit littéraire, et c'est ce que l'Académie a fait.
Je crois qu'on peut maintenant expliquer aux gens qui nous écoutent comment on devient membre de l'Académie et quelles sont les activités, mais je vous propose de le faire après la dernière pause. Merci. Nous voilà au dernier volet de notre émission d'aujourd'hui, l'Académie Saint-Anselme. Comment devient-on membre de l'Académie et surtout pour faire quoi?
Oui, dans ces presque 160 années de vie, l'Académie Saint-Anselme a eu dans son sein environ 300 membres, non même plus, presque 400 membres. Et soit valdôtain, soit étranger à la vallée d'Aoste, c'est-à-dire surtout des régions qui nous avoisinent, Piémont, Savoie et Suisse romande de façon particulière. Pour devenir membre de notre académie, il faut évidemment cette fait connaître à l'intérieur du monde culturel et intellectuel qui nous entoure, et donc avoir fait des recherches, avoir publié quelque chose, possiblement dans les deux langues, parce que les statuts de l'Académie prévoient et donnent une place aux Français. Pour devenir membre, il faut que les récipiendaires aient écrit quelque chose aussi en français. En général, les membres sont présentés par d'autres membres, c'est-à-dire par des académiciens, ou directement par le bureau de l'Académie, qui est composé de ses membres. En tout cas, même lorsqu'ils sont proposés par des membres extérieurs au bureau, le bureau examine, évalue si accepter la candidature, et la candidature qui est acceptée est présentée aux académiciens lors de la première séance successive à la présentation de la candidature. Malheureusement, nos statuts sont un peu compliqués parce que le membre qui a été présenté dans une séance sera soumis de nouveau à l'approbation de tous les membres de l'Académie dans la séance successive et voter uniquement et donc accepter uniquement à ce moment-là. Ceci avait une raison d'être au début, puisque les séances se tenaient presque tous les mois, et donc évidemment d'une séance à l'autre il n'y avait pas longtemps qui passait.
Il n'y avait ni la télévision ni la radio, donc les gens aimaient beaucoup causer entre elles.
On se réunissait très 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 souvent. Maintenant, hélas, il n'y a plus que deux séances, l'une au printemps et l'autre en automne, et donc le moment de la présentation à celui de l'acceptation est très long.
Un décalage de six mois
environ.
Je vois. Je crois qu'on peut maintenant parler aussi des activités de l'Académie, mais le temps est là. Hélas, nous manque, donc je vous renvoie à la prochaine semaine. Bien, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bonjour.
Merci à vous et à tout le monde.
La Fondazione Emile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.